C'est un texte du Zohar sur la parasha de Bemidbar, qui a été commenté par le Hafetz Chaim dans son commentaire qui s'appelle Hafetz. Alors quand tu sauras suffisamment l'araméen, parce que c'est des textes en araméen, tu verras écrit en clair. Ça, j'avais ça, Vikabel, petit chameur. Bon, et revenons finalement au problème. Il nous reste encore une demi-heure, je vais arriver très rapidement à notre question. Et c'est compris ça. En réalité, il y a beaucoup plus de niveaux, puisque notre principe, c'est la relation du rythme de la destinée de l'individu au temps absolu. Vous voyez les niveaux. Alors, la caractéristique du calendrier juif, c'est surtout cela. Chaque jour de l'année, quel est son sens par rapport au temps de la création, par rapport au temps de la révélation. Et c'est là que j'ai la commémoration historique à proprement parler. Et avec comme génération privilégiée de l'histoire d'Israël, la génération de la sortie d'Égypte, où ont eu les événements de révélation à l'échelle du peuple tout entier. Avant, c'était des individus. Après, ce sera des... Avant, c'était des individus, des patriarches. Après, ce sera des individus, des prophètes, qui sont le véhicule de la révélation. Mais à la génération de la sortie d'Égypte, c'est tout Israël. C'est pourquoi nous commémorons les événements de cette génération-là. Est-ce que c'est clair? On ne commémore pas la Pâque d'Abraham, et nous la connaissons. On commémore la Pâque de Moïse, parce que c'est celle de la sortie d'Égypte. On ne commémorera pas la Pâque d'Isaïe, de David, et nous la connaissons, elle a un sens important dans l'économie de la révélation. Mais ce qui est commémoré dans le calendrier de la communauté, c'est la Pâque du temps de Moïse. Parce que le temps de Moïse, c'est le temps où tout Israël a participé à la révélation. Comme collectif. C'est clair?
Bon. Donc, je crois que justement, c'est la révélation qui emporte sur la rédemption en création.
Pas forcément. Nous avons encore.
Oui. C'est la révélation a plus d'importance, je crois.
Non, c'est pas l'important. Tu veux dire dans la commémoration?
Oui.
Pas forcément, il y a encore des jours du calendrier où nous avons une liturgie et l'événement historique n'est pas encore arrivé.
Par exemple, que ça, pour les prières, on parle beaucoup de la révélation que la création d'un homme.
C'est, si vous voulez, ce qui nous est le plus accessible, mais c'est pas évident. Oui. Par exemple, le sens messianique de Pessah, c'est-à-dire. Non, c'est une apparence. Le sens messianique de Pessah. Pourquoi on commémore encore Pessah? On le commémore pas seulement par rapport au passé qui s'est passé, on le commémore comme préfiguration de l'avenir à venir. Et ça vous étudierait cela. C'est-à-dire comme dans l'exil, on a été imprégné des conceptions propres aux goyim de ces choses-là. Alors c'est la dominante historique du passé. Tu vois ce que je veux dire? Vous apprendrez, quand vous apprendrez, il faut d'abord apprendre l'hébreu. Parce que, on peut pas penser la pensée juive autrement qu'en hébreu, c'est normal. Quand j'ai voulu commencer à faire des études de philosophie, on m'a mis entre les mains une grammaire grecque. Et on m'a dit, voilà, apprends le grec, après tu vas lire Platon et Aristote. Si tu vas lire Platon et Aristote en français, tu comprendras jamais rien. Et c'est vrai, tant qu'on sait pas le grec, on peut pas comprendre Aristote ou Platon. De la même manière, tant qu'on sait pas penser en hébreu, on peut pas comprendre qu'est-ce que ça veut dire les choses dont les juifs parlent. Vous comprenez ce que je veux dire? Surtout que les mêmes mots ont été pris, en particulier en Occident, par le chrétien, avec un sens complètement différent. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, le mot se souvenir en hébreu, ça ne veut pas dire simplement se relier au passé, zecher. Ça veut dire rendre présent et à venir. C'est ça que ça veut dire se souvenir. Et c'est le vrai souvenir. Un souvenir qui me renvoie au passé, c'est qu'il est mort, ce souvenir. Un passé que je rends présent, c'est ça le souvenir. Bon, mais c'est une connotation très différente que du terme français se souvenir. Comme dit du commémore. Par exemple, le 14 juillet dans le calendrier français. Bon, alors on danse parce que le 14 juillet 1700.
Ouais.
Vous voyez que vous savez. Et on a pris la Bastille. Bon, mais quand on pratique Pessah, c'est pas parallèle à la commémoration de la prise de la. À la Bastille, c'est que Pessah est encore à faire. Mais nous savons qu'il peut être fait. De ça, nous avons souvenir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est maintenant, chaque année, que je fais Pessah. jusqu'à faire le Pessah de la
Pessah. Pour nous, c'est la dominante, et pour nous, on n'a pas la révélation. On reste à prendre la
Pessah. Oui, mais c'est une apparence. Les trois ont une, dans la communion de la fête, une importance, disons, analogue, mais une dominante sur la rédemption. Si, vous comprenez, si je dis que l'essentiel, c'est la relation au passé, ça c'est l'échec de la tradition. Ça veut dire que je rends vraiment passé le passé. Mes ancêtres sont sortis d'Égypte, j'ai pu le faire. Hein? Ils sont sortis d'Égypte. Je me rappelle qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est eux qui sont sortis d'Égypte. Je renvoie la réalité de la vie immédiate au passé. Vous y êtes ? Ce qui se passe dans le rituel, c'est tout à fait différent. Je rends présent ce qui s'est passé afin de le réussir dans l'avenir. Et c'est encore le troisième moment qui est plus important. Vous connaissez ce récit biblique au moment où il y a une civilisation antérieure qui est détruite parce qu'elle a échoué, Sodome et Gomorrhe. Alors, les justes de la ville sortent. Il y en a un qui se retourne au passé. Qu'est-ce qui lui arrive ? Si c'était la femme de Lot. Et c'est de là que vient l'expression française, je suppose, de sel gemme. Parce que quand elle est transformée en sel, elle la digère. Oui, elle s'est tournée vers le passé, figée. Ça, c'est l'échec de la tradition. Mais vous verrez que ça commence d'abord par le sens des mots. Il faut remettre le sens des mots à l'endroit. Et c'est clair.
Ça peut vous mettre au fond des mots.
C'est ça. C'est pour ça que vous aurez 18 heures de mots.
Ce que je veux dire, c'est que de toute façon, c'est clair dans les mots, la signification du matériel, etc.
Et voilà, avant d'arriver à la matière, ça c'est le dessert. Ouais. Si tu n'as pas pris le déjeuner, le dessert. Ça, on vous donnera des petits cadeaux de temps en temps, mais ça c'est le dessert. Si vous ne croyez pas que. Bon. D'abord, les choses solides. Ça ne veut pas dire que la matière n'est pas solide, mais ça dépend qui l'explique, qui l'a fait, d'où ça vient, tu vois ce que je veux dire. Un jour à Pourim, je vous ferai un cours comme ça pour Pourim, okay, pour montrer qu'on peut dire n'importe quoi si on ne sait pas de quoi on parle. Où est-ce que je suis ? Et alors, on revient au problème, de quoi je parlais ? Non, je parlais de ces trois régimes, bien entendu, il y en a d'autres. Mais vous voyez, pour moi, ce sont les trois registres fondamentaux. Bon, alors revenons au Shana Rabba. Alors, je vais vous mettre en schéma les fêtes du mois de Tishri. Sens, création, histoire, révélation, c'est-à-dire à travers l'histoire, et rédemption, sens messianique, après le temps. C'est vrai ? Je vais quand même dire tout ça. Création, ça veut dire que depuis l'origine, il y a une relation entre Dieu et le monde. Relation de création. Rédemption, ça veut dire que, en fin de compte, cette exigence de la rédemption se réalisera. C'est le temps. Mais il y a une histoire du monde, une histoire de la relation entre l'homme et le monde, et donc la commémoration, ce lien à la rédemption, c'est la commémoration de sens messianique par rapport à la fin de l'homme. Okay? Eh bien, le premier jour de Tishri, le premier jour de l'histoire, c'est précisément le jour de la Rosh Hashanah, c'est une création du monde. En relation, le jour du jugement. Notion corollaire entre création et le jugement, la mémoire. Je vais vous expliquer ça très rapidement. C'est pourquoi la Torah nomme Rosh Hashanah Yom HaZikaron, ça veut dire le jour de la mémoire absolue. Voilà ce qu'il faut découvrir. La mémoire. Le fait que l'être est doué de mémoire fait que il y a jugement. Nous sommes jugés parce que Dieu est de mémoire. Et à la limite, c'est la mémoire qui nous juge. Est-ce que c'est clair ? On apprendra ça beaucoup plus en détail. Mais vous avez Attraper l'idée ? Bien. Bon. C'est pourquoi donc les noms de Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin, le jour du jugement, Yom HaZikaron, le jour de la mémoire, Yom Harat Olam, le jour du commencement de l'histoire du monde. Parce que la mémoire totale nous renvoie à la création. Vous voulez ?
Bien, c'est mieux ?
Bon.
Ça, c'est le premier jour. L'événement historique, c'est la création du monde. Le dixième jour de Tishri, c'est Yom Kippour.
Alors, Yom Kippour, comment vous le traduisez en français habituellement ? Un seul à la fois. Bon, on enlève le grand, il n'y a pas tant. Kippour, il n'y a pas gadol. Le jour du pardon. Ou bien ? J'ai entendu ce jour. Il n'y a pas de souvenir autour.
Ou ce souvenir, c'est au chemin.
Je ne vois pas quoi tu penses. Peut-être à la prière des morts.
Oui.
Pour ce soir.
Pour ce soir, mais qui pour ? D'abord, pour le sort, c'est un mot persan. Qui pour ? Le pardon, c'est un mot hébreu.
Jugement.
Non, jugement, ça veut dire. Le mot de qui pour veut dire en hébreu et pardon et. Qu'est-ce que tu dis ?
Repentir,
c'est tchouba. C'est les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour qui sont là, c'est la dernière tchouba. Kippour, c'est un autre sens en hébreu, c'est pardon et expiation. Kippour, expiation et pardon. Bon, ensuite, le 15 Nissan, le 15 Tishri, c'est Sukkot. Alors, qui dure 7 jours. Donc, du 15 au 22, si vous vous souvenez bien, je vais vous. Le 7e jour après le 15, c'est le 21 Tishri. Ça, c'est le prochain printemps. Que nous entendons samedi soir et dimanche matin. Le 8e jour après le 1er jour de Sukkot, nous sommes au 22. Tishri, c'est Simchat Torah. Je m'irai à Ratzelet. Voilà, aujourd'hui, il me reste un quart d'heure, 20 minutes. Qu'est-ce que vous faites après ?
Rien.
Rien. Vous êtes fatigué, vous marche ? Je peux vous déborder un peu ? C'est-à-dire, nous allons étudier Shabbat. Bon, à Simchat Torah, je ferai quand même un cours sur Simchat Torah. Mais retenez bien l'articulation des jours de Tishri. Pour le moment, je vous décris la commémoration par rapport aux événements. Le Rosh Hashanah, le premier jour, l'événement que l'on se réfère, création du monde. Et à l'échelle de chacun moi, de chacun pour lui-même, c'est le jour de. Suivez.
Yom Hadin, c'est le jour
de. Non, c'est au niveau de l'événement historique. À l'échelle de l'universel, du monde, c'est la création du monde. À l'échelle de chacun de nous, c'est quoi ? Je me réponds. Non. Est-ce que vous suivez ? L'événement historique auquel je me relie le jour de Rosh Hashanah, c'est la création du monde. Ça, c'est à l'échelle universelle. Mais à l'échelle de chacun, c'est qu'est-ce que la création du monde ? C'est le commencement de l'histoire du monde. Pour chacun, c'est quoi ? Ma naissance. Bon, qui sera fait le jour de sa naissance ? Il y a un problème. Mais j'aimerais dire ça. Personne n'a la preuve personnelle qu'il est né un jour. Il faut que je fasse confiance aux gens qui ont assisté et qui me disent oui, je t'ai né. Mais moi, je ne sais pas si je suis né. Vous comprenez ce que je veux dire ? Faites bien attention à ça. On aura exploité ça un jour. Et puis alors, d'habitude, je vois des enfants naître, je me dis, ça doit être comme ça. Mais le seul qui n'a pas de preuve qu'il est né, c'est toujours soi-même. Pardon ? Et c'est relié, négativement, mais c'est relié. Quelle est l'idée qui apparaît là ? Qu'est-ce que ça vous explique, c'est cette remarque. Je suis le seul à ne pas avoir de preuves personnelles que je suis né.
Je peux bien croire, c'est-à-dire au départ,
ça c'est pas mal, c'est autre chose, c'est un peu existentialiste. C'est-à-dire que dans le principe, par principe, les choses essentielles sont du domaine de la foi. Un peu sacré. Condamner, ça c'est un mot de Sartre. Non, ça c'est la même chose. Je dépends du témoignage d'autrui, oui. Non, mais je veux dire que nous avons un sentiment profond que nous sommes éternels. Je pense que vous avez déjà rencontré ça quelque part, oui. Et alors, qu'est-ce que c'est ça la naissance et la mort ? C'est une chose importante. C'est que moi, que mon corps, c'est pas forcément la même chose. C'est mon corps qui a eu un commencement et qui aurait une fin, mais moi. Alors que je sais. Vous voyez, c'est clair ?
Non.
Non, c'est vrai ? Non. Écoutez, quand vous aurez des enfants, il y aura bien, mais nous, on peut pas l'avance. Vous saurez que quand un enfant naît, alors les parents, tout fiers, ils croient que c'est eux qui l'ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait son corps ? Ça y est ? Et vous verrez cet enfant naître, arriver à un monde tout entier, il est lui-même, et il est là, on ne sait pas d'où il vient, mais il vient. Alors il est là, et d'ailleurs pas très content, dès qu'il ouvre les yeux, il grogne, et puis il s'endort, il veut pas se monter, vous avez remarqué ? Et puis finalement, il y a dire, ce qu'il faut expérimenter, c'est ça. C'est. Il y a donc une différence entre moi et mon corps. Vous voyez ce que je veux ? Bon, vous arriverez à ce pressentiment. C'est très important de savoir ce que c'est. Très important de savoir ça. Il faut retrouver la mémoire. Il faut retrouver la mémoire. Si je vous pose la question, qui suis-je ? Ben rappelle-toi. Oui, mais je ne peux pas me rappeler. En tout cas, il y a un moment qui m'est complètement caché, c'est mon commencement. Je vais vous le dire d'une autre manière. Vous avez déjà un certain âge. Bon, il faut que je fasse confiance. Il y a une sage-femme, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle sage, je ne sais rien. Enfin, il y a une sage-femme qui peut témoigner. Oui, je l'ai vu naître. Mais qu'est-ce qu'elle a vu ? Elle a vu naître un corps, pas moi. Pas moi, ma mémoire. Et c'est très consolant, parce qu'au moment où le corps sera rendu à la poussière, c'est pas moi.
Ça vous a consolé ? Mais en fait, c'est-à-dire que le corps, le corps il a tout.
Quoi ?
Le corps où moi je suis, et il a toujours influencé quand même moi.
Bah oui, c'est sûr.
Alors,
oui.
Donc il y a un
C'est sûr. C'est sûr qu'il y a un lien, mais il s'agit de mon existence terrestre. Mais moi, ça renvoie à l'absolu, ils sont passés par le biais de la mémoire. Réfléchissez à cette expérience. C'est pas une idée, c'est une expérience. Personne ne peut se rappeler du moment de sa naissance. Alors ça veut dire qu'on n'a pas expérience du moment commencement. On est tout à fait ça. En tout cas, première remarque, ça veut dire que moi et mon corps, c'est quand même différent, parce que de quoi il y a eu l'expérience ? De la naissance de mon corps. Je vais ouvrir une parenthèse, et on étudiera dans d'autres cours, dans d'autres problèmes. Je découvre un commandement dans la Torah. Tu aimeras, respecte ton père, tu respecteras tes parents. Bon, alors on a tendance, un peu comme tout à l'heure, on a tendance à croire que ça va de soi, c'est naturel. C'est tout le contraire. C'est parce que la Torah sait que c'est pas naturel qu'elle me donne un commandement, sinon elle ne me donnerait pas un commandement. Et c'est vrai. Et d'où ça vient que c'est pas naturel ? Je parle pas encore du conflit psychologique des générations. Ça va se référer là-dessus. C'est que c'est le corps qui est fils des corps.
mais pas la personne. Vous avez fait
et alors, a priori, la personne de l'enfant vient comme un étranger, d'où le commandement moral respecte ceux qui t'ont invité chez eux. Est-ce que c'est bien clair? Parce que précisément, par la nature, il va y avoir conflit et opposition. Ça, on apprendra d'autre part. La psychologie moderne commence un peu à entrevoir ces choses-là. Mais là, il y a un grand principe. Si la Torah me donne un commandement par révélation, c'est que je ne peux pas le tirer de moi-même. Mais je suis tellement habitué à l'éducation biblique que je finis par croire que ça va de soi de respecter ses parents. Et j'oublie que ça ne va pas de soi et je tombe dans le piège la première fois que ça arrive. Vous avez compris le problème? Est-ce que c'est clair? Bon. C'est-à-dire que la révélation ne révèle que ce que je ne peux pas être par moi-même. Voilà le grand piège de la familiarité fausse avec ce que j'appellerais le pastiche de la Bible. On croit que c'est rationnel, que ça va de soi, ça va pas du tout de soi, sinon ça ne serait pas révélé. Et quand j'ai oublié que ça va pas de soi, alors je tombe dans le piège. Vous voyez, c'est clair. Mais il faut être vigilant, il faut savoir qu'il y a la donnée de nature contre laquelle ce commandement vient lutter. Si les commandements de la Torah, c'est comme des armes. Si je ne sais pas contre quoi je lutte, je ne sais pas à quoi ça sert l'arme, alors je jette l'arme. Parce que je ne savais pas qu'il y avait un ennemi. Est-ce que c'est clair?
Mais est-ce que l'âme a un commencement?
Non.
Et chaque phrase de son livre.
Est-ce que l'âme a eu un commencement?
Non.
C'est des points difficiles.
Comment ça se fait?
Parce que l'idée de commencement et de fin n'a aucune place dans des réalités comme l'âme. Vous voyez que vous pensez tout par rapport aux choses matérielles? Bon, on est allé très vite aujourd'hui, mais ce que je voulais vous faire découvrir, c'est ça. Ne serait-ce que par étude, réfléchissez, il faut du temps. L'esprit prend son temps, comme dit l'autre, je sais plus. Il faut du temps pour réfléchir. Faites attention à ça. Vous apprendrez beaucoup de choses, mais finirez par les comprendre dans 40 ans. Il faut que ça s'intègre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut déjà apprendre. Là, il y a un stock de mémoire qu'il faut récupérer. Vous avez été coupé de vos sources, il faut donc les récupérer. Mais pour intégrer et comprendre, ça, il faut du temps. Réfléchissez bien à ça. On a découvert une première notion, une intuition. Il faut y réfléchir. Moi et mon corps, c'est pas forcément la même. Alors, vous avez l'âme, comment? Une réalité qui n'est pas dans le temps. La notion de commencement, donc on prie sur elle. Est-ce que vous croyez que l'âme est dans le temps? Où elle est là? Dans le temps ou dans l'espace? Où elle est? Bon. J'ai pas dit que moi, c'est mon âme. Bon, non, mais j'ai pas dit ça. Vous avez entendu dans vos oreilles occidentales. Mais j'ai en tout cas dit que moi et mon corps, c'est pas forcément la même chose.
Quelle est la différence entre l'esprit, l'âme,
l'esprit, le corps? Ben, ça, il faudra du temps pour apprendre. C'est pourquoi, on l'a dit tout à l'heure, il faut vite apprendre le plus de mots possible pour savoir comment caractériser ces notions. Attendez, oui, j'ai pas terminé. Je veux dire que voilà ce qu'il faut découvrir. Le monde a eu un commencement. Ça, c'est la notion de création. Et le fait que moi je sois dans le monde, ça a un commencement. C'est sûr. Non, mais je voulais, puisqu'on a parlé de ces choses-là, vous consoler à l'avance. On ne peut pas entrer dans l'univers biblique si on. Et il faut le temps pour ça, il faut intégrer cela. Mais si on découvre pas cela, qu'il y a un scandale dans l'histoire du monde, c'est la mort. Mais que l'expérience hébraïque a changé. Être sauvé, ça veut dire être sauvé de la mort. Et de la panique et de l'angoisse de la mort. Vous ajoutez l'expérience, vous montrera, c'est surtout à votre âge que la mort, ça fait peur. Mais avec l'âge, vous aurez de moins en moins peur de la mort. Mais sachez que c'est un incident, un peu comme quand on change de vêtements. Il faut s'habituer à cette chose. En tout cas, vous avez le temps.
Je pense que sur la table, on ne puisse pas de la mort. Moi, je pense qu'à 20 ans, on est pleinement conscient.
Disons, je me suis mal exprimé, avoir plus peur de l'idée de la mort. C'est-à-dire de cette idée que la mort, c'est la fin. C'est très bien. Bien, c'est-à-dire qu'il faut être sauvé de tout cela. Et vient un âge. Tout ça, c'est l'expérience romantique. Hein? Vivre avec. C'est ça le romantique. Vivre avec les contradictions. Vivre avec la nuit. Vivre avec la mort, etc. Il y a un âge romantique qu'il faut passer par là. Et il faut savoir que ça réussit que si, ça passe bien. On a le droit à être romantique 3 mois, 4 mois dans la vie, il faut savoir un peu ce que c'est. Mais rester comme ça, c'est de la tranquillité absolue. Bien entendu. Vous savez, ça non. Alors il y a un âge où il faut écrire des vers, où il faut le front penché sur la terre, au crépuscule, main dans la mer. Il faut, ça c'est indispensable. Mais très rapidement, il faut se réveiller aussi. Je veux dire une chose que vous avez dit une fois à un de mes professeurs de littérature au lycée, ah, ça va il y a longtemps, c'est, il disait, quand on écrit des vers à 17 ans, on a 17 ans, si on écrit des vers à 50 ans, c'est que peut-être on est poète. Vous voyez la différence? Bon, alors, en tout cas, il faut écrire des vers à 17 ans, et le plus possible. Parce que comme ça, on sait vraiment un jour si on est poète ou pas. Tant qu'on ne sait pas dégager des exercices de versification.
Donc, l'intensité qu'on donne à 50 ans, on ne lui donne pas à 17 ans. C'est-à-dire, le mot, on lui donne le sens qu'on a à 50 ans. On peut écrire des vers à 50 ans.
Alors, écoute, je vais te dire, si quelqu'un a écrit des vers à 50 ans et c'est qu'il est poète, ça veut dire que même ce qu'il avait écrit à 17 ans, c'était aussi d'employé.
Non, mais c'est pas la même chose. Non, c'est-à-dire que le sens du mot, par exemple, maintenant, si vous utilisez un mot maintenant, vous n'avez pas le même sens que vous avez à 15 ans. C'est-à-dire que le mot lui-même a une. C'est-à-dire que, avec l'expérience, on donne au mot son sens de plus en plus plein.
Oui, c'est un peu ce que je disais. L'idée de la mort est une idée tragique. Mais cette intensité romantique de la conscience tragique, elle est le propre de l'adolescence. Et je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, j'ai compris l'idée. Avec l'âge, alors on est plus lucide et on se rend compte de, bon, ceux chez qui ça n'arrive pas, ils n'ont pas acquis cette sagesse, ça veut dire qu'il y a un peu d'infantilisation qui continue. J'ai parlé trop vite, enfin, c'était des parenthèses. Ceci pour vous dire, faites attention. Et l'intensité d'expérience romantique qui cache le sens de la sagesse lucide, adulte, je le rends compte. Et la phase romantique est importante dans la vie individuelle, dans l'histoire de la civilisation, mais ça ne doit être qu'une phase.
Ça ne doit pas continuer. Hein? Ça ne doit pas continuer.
Il ne faut pas rester prisonnier dedans.
Je
ne
sais pas quoi.
Pourquoi?
Par exemple, la conscience romantique, quelle était, vous rappelez votre histoire de la littérature, selon les critiques, les historiens de la littérature, quel est le romantique par excellence, sur lequel il n'y a pas de discussion qu'il est romantique? C'est qui? Pardon?
Il en reste un.
Il est déjà presque symbolique. Vini, c'est le romantique par excellence. Et par quoi ça se traduit? Parce qu'il prend au sérieux son expérience romantique. Les autres aussi, mais chez les autres, par exemple Musset, chez Musset, il y a quand même un peu de coquetterie, hein, de secondarisation. On joue à ça un peu. Quoique Musset, c'est un grand poète, il ne faut pas croire, mais romantique. Tandis que Vigny, c'est le romantique par excellence. Par quoi ça se traduit? Non, mais. Par la conscience tragique, pessimiste absolu. Okay. Oui. Eh bien, et cette expérience-là, il est normal que ce qu'on y passe. Mais il n'y a rien de plus opposé à la conscience hébraïque. Lorsque vous serez suffisamment pour pouvoir lire la Bible dans le texte, et il faudra peut-être 40 ans avant d'arriver au commencement d'une lecture, et c'est normal, eh bien, vous verrez qu'il n'y a pas du tout de dimension tragique ni romantique dans ce livre. L'hébreu ne connaît pas cela. Et c'est pourquoi l'hébreu a été porteur d'optimisme et d'espérance. Faites bien attention à ça. On est parti de l'exemple qui est très bien centré de l'idée de la mort. J'ai vu ton droit, oui. je veux dire, l'idée de la mort a une dimension tragique. Et dans la littérature telle que nous la connaissons, dans notre civilisation, c'est le romantisme, parce que ça correspond à un certain âge. À l'âge de l'adolescence, ça a cet impact-là, cette tonalité-là. Et puis sachez que quand on arrive par l'expérience de l'âge à un niveau de sagesse supplémentaire, tout ça est évacué. Bon, j'ai parlé très vite, mais et voilà ce que je voulais dire. De la même manière que nous ne disposons pas dans notre mémoire de l'expérience du commencement, nous ne disposons pas non plus de l'expérience de la fin. C'est comme ça que c'était arrivé.